par l'ouest du pays. Cet après-midi, on attend 17 à Biarritz, 11 à Marseille, 9 à Paris, 7 à Lille et 3 degrés à Strasbourg.
Patricia Charbonnier, merci de votre écoute et de votre fidélité. Nous sommes dimanche, il est 8h. Et à la une ce matin, Jean-Christophe Martin, bonjour.
Bonjour Adrien,
bonjour à tous. La neige et le verglas donc étaient au rendez-vous cette nuit sur la région parisienne et sur le massif central.
Avec des pluies donc parfois verglaçantes, prudence encore ce matin avant le redout promis pour la mi-journée. Comment donner aux enfants des emplois du temps qui conviennent mieux à leurs intérêts et à leur développement? La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant rend son rapport final aujourd'hui. Ils étaient 6000 hier à Marseille pour la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi et pour appeler à se mobiliser contre le narcotrafic. Un nouveau sommet sur l'Ukraine, c'est aujourd'hui en Suisse. À l'ordre du jour, le plan de paix de Donald Trump avec des émissaires américains, ukrainiens et européens. Et le football, un revenant hier soir avec Monaco sur la pelouse de Rennes. Paul Pogba a retrouvé la compétition pour la première fois depuis plus de 2 ans et toute une série de coups durs. Récit dans quelques minutes.
Bienvenue et bonne journée à tous.
Après l'épisode de neige et de verglas la nuit dernière, la Seine-et-Marne et une partie du massif central restent en vigilance orange de Météo France. Neige et verglas encore ce matin, des pluies verglaçantes peuvent encore rendre les sols très glissants. Donc si vous circulez dans le massif central, la plus grande prudence et de rigueur. Pour l'Île-de-France, il est tombé jusqu'à 4 cm de neige cette nuit. Pas de gros problèmes en revanche pour circuler. État des lieux avec le responsable des routes en Île-de-France, Bastien Salès.
On a eu quelques chutes de neige dans toute l'Île-de-France. Ça a tenu pas partout, mais dans certains endroits, oui. Et donc, on a bien dû sortir des neigeuses sales. Donc, nos équipes ont été mobilisées toute la nuit pour permettre un retour à la normale de la circulation, même s'il faut rester vigilant avec du verglas toujours possible. On a eu très peu d'accidents pendant la nuit. Donc, maintenir cette vigilance et maintenir cette baisse de la vitesse sur nos routes, moins 20 km/h, qui a été déterminée par arrêté de la préfecture.
Prudence donc encore en ce moment sur les routes d'Île-de-France avant le net redout annoncé pour la mi-journée.
C'est la fin, Jean-Christophe, de 5 mois de travail collectif pour la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant. Elle se termine donc aujourd'hui.
Les 130 citoyens tirés au sort votent à la mi-journée sur leur rapport final qui sera ensuite remis au chef de l'État et au Premier ministre. Ces Français représentatifs de la société ont eu des réunions encadrées par le Conseil économique, social et environnemental. Ils devaient réfléchir aux mesures à prendre pour mieux structurer les temps de la vie quotidienne des enfants. Jean-Carl Deschamps est membre du comité de gouvernance de cette convention citoyenne.
La convention citoyenne ne portait pas spécifiquement sur le temps scolaire, mais sur les temps de vie de l'enfant, donc d'une manière globale. Et ce que constate la convention, c'est une fragmentation à l'extrême, totalement inadaptée aux besoins physiques, psychiques des enfants.
Pour être très concret, si on prend l'exemple de l'école, ça veut dire qu'une journée de cours qui commence à 8 heures, dans certains cas, c'est trop tôt par exemple.
Oui, c'est effectivement l'une des propositions que font les citoyens, que de décaler le début de l'école à 9 heures. Ça a fait consensus au sein de la convention citoyenne.
La question aussi de l'organisation des semaines de cours est évoquée. On sait qu'il y a toujours la question des 4 jours, 4 jours et demi. Et bien là, la proposition, elle est tout autre.
Elle est tout autre. Elle est sur 5 jours, du lundi au vendredi, avec plutôt une orientation vers des cours le matin d'apprentissage théorique. Et puis l'après-midi, plutôt sur des apprentissages de savoir-faire, de savoir-être. Mmh. Et puis toutes les activités sportives et culturelles, oui, qui sont extrêmement importantes et qui ont d'ailleurs un rapport.
Jean-Carl Deschamps, membre du comité de gouvernance de cette convention citoyenne sur les temps de l'enfant, invité ce matin de France Info.
France Info, 8h03 à Marseille. La marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi a rassemblé plus de 6000 personnes hier.
Et ce jeune homme de 20 ans, c'est celui qui a été assassiné le 13 novembre à Marseille par un commando à moto. Son grand frère Amine affirmant que plus on est nombreux, moins c'est possible de nous faire taire. Ils étaient donc 6000 hier. Amine Kessassi, ce militant écologiste engagé contre le narcotrafic, il appelait hier à entrer en résistance sans céder à la peur. Tristan Barraud a rencontré dans le défilé des jeunes inquiets de voir le climat de leur ville qui se dégrade.
Trois amis venus au rassemblement, Swan, Lison et Olympe, ont entre 14 et 15 ans. Ils habitent à Marseille, à côté du quartier où Mehdi Kessassi a été tué par un commando armé à l'âge de 20 ans.
C'est quand même très jeune. Pour la famille, pour tout le monde, c'est dur. Donc nous, on vient vraiment pour soutenir, pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et qu'on veut juste que ça s'arrête.
Alors que la justice étudie la piste du crime d'intimidation visant le frère de la victime, un militant anti-narcotrafic connu. Les trois jeunes se sentent directement concernés par la problématique.
Autour de nous, il y a beaucoup de personnes qui tombent dans la drogue et moi, ça me fait vraiment peur d'être dans le quartier et tout ça.
Dans la rue, il y a souvent ce stress où on se dit faut vite rentrer, on sait jamais.
La peur à certaines heures, dans certains quartiers, Lucie, la vingtaine, là aussi, cette Marseillaise regrette un manque de perspective positive dans la lutte contre le narcotrafic.
Il y a énormément de jeunes, en effet, à la dérive qui se font happer en fait, par ce phénomène qui dépasse un peu tout le monde. Là où avant, dans l'imaginaire collectif, la mafia, c'était un peu un dérèglement de compte, un genre d'entre-soi où ça touchait pas le public à plus grande échelle. Et aujourd'hui, ça fait des victimes vraiment collatérales.
D'autres personnes venues au rassemblement m'ont dit qu'il faudrait un débat national sur la question du narcotrafic.
Tristan Barrault à Marseille pour France Info. Et des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier à travers toute la France et bravé le froid pour exprimer leur colère face à la persistance des violences contre les femmes et pour réclamer un plus grand effort, notamment budgétaire, et en appelant l'État à révolutionner la lutte contre ce fléau. 50 000 manifestants à Paris, des dizaines de milliers dans les villes de province.
France Info, 8h05, Jean-Christophe Martin, le plan Trump sur l'Ukraine au cœur d'une réunion ce matin à Genève.
Les émissaires américains, ukrainiens et européens viennent discuter du plan jugé par l'Ukraine beaucoup trop favorable aux Russes. Volodymyr Zelensky a déjà dit qu'il n'en voulait pas en l'état et qu'il va faire d'autres propositions aux Américains. À Odessa, pour France Info, Théo Renaudon.
Impossible de savoir réellement avec quelle carte la délégation ukrainienne arrive en Suisse ce dimanche. Délégation d'ailleurs essentiellement militaire. Ce qui semble évident, c'est que l'Ukraine ne viendra pas avec un non trop vif face au plan américain, par peur de froisser. Écoutez Volodymyr Zelensky, c'était vendredi soir.
Je présenterai des arguments, je convaincrai et je proposerai des solutions. Mais nous ne donnerons certainement pas de raison à l'ennemi de dire que l'Ukraine ne veut pas la paix, qu'elle est celle qui perturbe le processus ou qu'elle n'est pas prête pour la diplomatie.
Le président ukrainien qui compte également sur ses alliés européens autour de la table, jusqu'ici devancés par la proposition américaine et qui devraient eux aussi venir avec leur propre solution pour l'Ukraine. À l'autre bout du continent, Moscou restera à convaincre.
Théo Renaudon de RFI à Odessa pour France Info. Que retenir de la COP30, le sommet des Nations Unies sur le climat qui s'est terminé hier à Belém au Brésil, à la grande déception des Européens. Rien sur la sortie des énergies fossiles, pourtant principale cause du réchauffement climatique. Mais près de 200 pays se sont mis d'accord sur la déclaration finale. Les pays en développement obtiennent le triplement de l'aide à l'adaptation à l'horizon 2030, c'est-à-dire des financements pour faire face aux dégâts causés par le réchauffement climatique.
Nous passons au foot, Jean-Christophe, avec le PSG qui reprend à l'OM la tête de la Ligue 1.
Avec la victoire parisienne à domicile, 3-0 sur le Havre dans la 13e journée. Journée marquée par le grand retour avec Monaco de Paul Pogba, le champion du monde 2018. Après plus de 2 ans d'absence et une série de coups durs, il n'est entré en jeu que quelques minutes avec Monaco, lourdement battu 4-1 sur la pelouse de Rennes. Mais malgré la défaite, il a enfin vécu ce moment tellement attendu, moment vécu à Rennes pour France Info par Jean-Pierre Blimaud.
Il est 20h18, Paul Pogba part s'échauffer. À 20h40, il entre sur la pelouse. Paul Pogba ! Le Roizen Park l'acclame comme rarement un joueur adverse ne l'a été. Preuve de l'immense popularité du champion du monde qui n'avait encore jamais joué en Ligue 1 française.
Ça m'a vraiment touché de voir ce public vraiment se lever, applaudir. J'imaginais pas en fait. Je voulais essayer d'apporter une bonne énergie et prendre du plaisir bien sûr parce que je suis soulagé d'avoir... repris le football, ce que j'aime le plus au monde.
Dans les tribunes, même les supporters de Rennes sont émus, comme Alban, 25 ans. Il en avait 18 quand Pogba l'a fait rêver à la Coupe du Monde en Russie.
C'est quand même un joueur qui a ramené la Coupe du Monde pour la France, donc c'est plutôt sympa. À part avoir applaudi, on est content de le revoir.
Dans les coulisses, Paul Pogba prend le temps devant les micros et parle posément, comme si les épreuves l'avaient rendu plus fort.
Malgré tout ce qui s'est passé, toutes les histoires en dehors du football, c'est moi qui ai souffert le plus. T'as des moments où le diable, il essaye de parler dans ta tête pour dire c'est fini, mais il y avait toujours espoir et j'ai toujours gardé espoir.
Avec le temps additionnel, Paul Pogba a joué une dizaine de minutes pour son retour. Elles compteront énormément dans sa reconstruction.
Jean-Pierre Blimeau à Rennes pour France Info et le rugby. Le 15 de France a fini l'année et sa tournée d'automne sur une bonne note avec cette victoire 48-33 face à l'Australie hier soir au Stade de France.
Merci à vous Jean-Christophe Martin. Je me tourne vers vous à présent Patricia Charbonnier. Évolution là ces dernières minutes en termes de vigilance pour la neige et le froid.
Hein. Oui, on peut le dire, hein, l'épisode neigeux touche à sa fin. On n'a plus que deux départements ce matin en vigilance orange neige, verglas, le Puy-de-Dôme et le Cantal. Le Redoux se confirme et se fait assez rapidement sur l'ouest du pays. On a déjà 13 degrés ce matin à Brest et Quimper, mais seulement encore moins 8 degrés à Strasbourg. Donc encore localement quelques pluies verglaçantes sur l'ouest du massif central. Sinon, c'est la pluie qui prend le relais après la neige. Un temps qui s'annonce très humide aujourd'hui sur une bonne partie du pays avec des températures en hausse cet après-midi. On va se rapprocher des valeurs de saison. 17 degrés, ce sera le maximum à Biarritz. 11 à Marseille, 7 à Lille, 6 à Lyon et 3 degrés à Strasbourg.
Merci Patricia.
Ces destins qui font l'info, une série à découvrir chaque dimanche sur France Info.
Ils ont marqué l'actualité ces derniers mois. France Info explore le parcours des personnalités qui influencent et modèlent le monde.
Cette semaine,
Giorgia Meloni.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple.
Ces destins qui font l'info, le dimanche à 8h50 et 12h50 sur France Info.
Voilà ce qui vous attend dans la prochaine demi-heure. L'Europe tente de revenir dans le jeu sur le dossier ukrainien. On en parle dans quelques secondes. Et c'est au menu du 8h30 France Info. Bonjour Mathilde Sirot.
Bonjour Adrien.
Journaliste au point avec notre invitée Alice Ruffo.
Elle est un nouveau visage du gouvernement, ministre déléguée aux armées. On abordera avec elle dans le détail le plan de paix en Ukraine concocté par Donald Trump. Encore une fois dans le dos des Européens qui cherchent comment peser. Les conséquences de plus en plus concrètes en France de la menace russe. Et le risque d'impasse sur le budget au moment pourtant où nos dépenses militaires sont toujours plus importantes.
A tout à l'heure donc, 8h20, dilemme entre protection de la nature et art, la fabrication des archets pour violon et violoncelle menacés, le bois qui les compose bientôt interdit à la vente, c'est le choix de France Info. D'abord donc l'Ukraine, 8h11.
France Info, 7h10, Adrien Deck.
L'Europe peut-elle stopper le rouleau compresseur Trump sur le dossier ukrainien? Le président américain qui a semblé se montrer un petit peu plus ouvert cette nuit. On va y revenir alors que les Européens s'invitent aujourd'hui à la table des négociations à Genève aux côtés donc, des Américains, des Ukrainiens. Après l'annonce donc, de ce plan de Washington pour mettre fin à la guerre, plan qui fait la part belle aux revendications de Moscou. L'Europe donc peut-elle changer la donne? Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, consultant en affaires européenne, enseignant au Corps des Mines et à l'école de commerce ESCP. D'abord, écoutons Emmanuel Macron. Hier soir, depuis le G20 en Afrique du Sud, les mots sont pesés, mais le désaccord avec Donald Trump est assumé.
Il y a un plan de paix qui est arrivé. Il est bon dans le sens où il propose la paix. Mais c'est une base d'un travail qui doit se reprendre. Parce que ce plan, aujourd'hui, d'abord, n'a pas été négocié avec les Européens. Or, l'intégration européenne de l'Ukraine, c'est dans la main des Européens. Savoir ce que fait l'OTAN, c'est dans la main des membres de l'OTAN. Donc, il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas simplement être une proposition américaine, qui suppose une concertation plus large.
Donc, une concertation plus large, une base qui nécessitera des travaux supplémentaires, disent les dirigeants européens. Sauf qu'il y a quand même l'ultimatum de Donald Trump, même si le président américain a dit que, voilà, il pouvait encore amender. Est-ce qu'on peut arriver à modifier, les Européens peuvent arriver à modifier cet accord assez rapidement, en quelques jours?
Oui, et ça va commencer aujourd'hui à Genève, puisque les conseillers pour la sécurité nationale vont se réunir, les principaux pays européens, l'Américain Marco Rubio, et puis une délégation ukrainienne. Donc là, il y a quand même une concertation qu'il aurait fallu obtenir avant, mais qui au moins aura le mérite d'avoir lieu, sur la base d'un texte dont le président Macron a dit à juste titre qu'il fallait bien s'en emparer, puisqu'après tout, c'était une proposition de paix, mais qu'il n'a pas osé, c'est normal, qualifier de brouillon. Or, c'est ce que pensent les Européens, c'est un brouillon largement inspiré par les Russes.
On a l'impression que le désaccord est à peu près total sur une grande partie des points.
Oui, voilà, parce qu'il y a 28 points, si vous voulez, faire des programmes éducatifs dans les écoles ukrainiennes et russes, ça passe. Le fait que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. De toute façon, les Européens avaient déjà dit non. Voilà, France-Allemagne en tête en 2008. Donc ça, c'est un fantasme russe. Mais il y a en revanche toute une série de points qui sont problématiques, notamment en termes de concessions territoriales, de gains donnés à l'agresseur, d'utilisation de l'argent ukrainien à des fins mercantiles, et j'en passe.
Est-ce qu'on peut se dire quand même que le fait que Donald Trump dise que le plan n'est pas sa dernière proposition, c'est ce qu'il a dit cette nuit, est-ce que là, les Européens peuvent souffler un peu? Est-ce que ça dessert un peu l'étau?
Oui, parce que Ce qui dessert aussi l'étau, c'est la présence de Marco Rubio, parce que lui non plus, hein, visiblement, c'est quand même le secrétaire d'État américain,
dont
n'était pas dans la négociation.
Et dont on sait voilà, qu'il n'est pas très pro-russe, Marco Rubio,
non,
par ailleurs.
Non, et puis surtout qu'il est plus professionnel que M. Witkoff, qui est quand même un partenaire de golf de Donald Trump à l'origine et qui a été dépêché comme émissaire sur la Russie. Donc là, les choses sérieuses vont recommencer. Vous parlez de Trump comme un rouleau compresseur. Enfin, c'est quand même très erratique hein, comme rouleau compresseur. Simplement, là, effectivement...
Un rouleau compresseur qui fait des arrêts.
Il y a une pression, voilà, et des changements brusques de trajectoire qui d'ailleurs peut-être parfois sont indexées à des considérations pécuniaires qui nous sont un peu étrangères, mais en tout cas qui sont sous-jacentes, semble-t-il, dans les négociations avec la Russie. Bon, ce qui est certain, c'est que là, désormais, il va y avoir un texte, c'est voilà, une base de travail et que les Européens vont amender, je crois qu'ils y arriveront.
Et alors, précisément, il est où le moyen d'amendement des Européens c'est quoi? C'est sur... Par exemple, cette force dont on avait parlé de réassurance, possiblement en Pologne, les Européens espéraient qu'elle soit en Ukraine. Est-ce que il est là le point d'entrée de la négociation?
Oui, effectivement, il y a aussi des enjeux de déploiement de troupes, de garantie de sécurité à l'Ukraine. Je dirais que...
Ça, c'est pas clair pour l'instant.
Voilà, dans le plan.
Dans le plan de Donald Trump.
C'est les Européens qui sont libres d'agir. Le plan dit à un moment qu'il y aura des troupes stationnées en Pologne. Bon, il se trouve qu'il y a déjà des troupes stationnées en Pologne, puisque les Polonais ont musclé leur armée, les Français sont en Estonie et en Roumanie. Ça, c'est dans la main des Européens. Je dirais que les Européens avaient déjà reçu un coup de semonce quand Donald Trump avait... humilier Zelensky dans le bureau ovale et que donc ils sont quand même moins pris au dépourvu qu'il n'y paraît, même si ce plan a fuité, je crois que c'est les Russes qui l'ont fait fuiter et que c'est vrai que ça fait des ordres et c'est effroyable du point de vue des Ukrainiens.
Vous rappeliez à juste titre la séquence du bureau ovale, il y a eu les Européens qui finalement s'en sont mêlés, les Européens qui ont fini par revenir à la Maison Blanche avec Volodymyr Zelensky, Donald Trump qui a changé de ton, Donald Trump qui change à nouveau de ton, les Européens qui vont peut-être faire en sorte que Donald Trump change encore de ton. Enfin, on a l'impression que ça n'en finit jamais.
Écoutez, il y a une bataille sur le terrain, là, y compris dans le blast de Donetsk. En ce moment, les Ukrainiens paient le prix de leur vie pour rejeter l'invasion russe. Simplement, sinon, c'est du poker. Du poker menteur entre les Américains et les Russes. Et puis, de l'autre côté, une partie simultanée entre les Américains et les Européens. Parce que ce sont nos alliés et donc on n'en finit jamais parce que, comme aurait dit Trump, on n'a pas toutes les cartes. Oui, c'est vrai que les Américains ont quand même la carte capacitaire, le renseignement notamment, qui est cru. Donc, ils ont un levier dans cette négociation. Ils ont un président qui veut tout finir avant Thanksgiving pour des raisons de convenance personnelle et aussi
et d'affaires
parce
aussi
qu'il est en difficulté, il faut le dire, sur le plan économique et politique dans son pays. Et donc, des Européens qui essayent de jouer leurs cartes au mieux dans un conflit qui n'est pas un conflit ouvert avec la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie en Ukraine, mais en revanche, il y a une guerre hybride de la Russie contre nous. Et d'une certaine manière, ce plan mal ficelé et qui a fuité fait partie de cette guerre hybride qui est composée d'agitprop. Les Russes ont beaucoup appris de l'époque soviétique, ils s'en servent.
Merci beaucoup pour cet éclairage. Yves Bertoncini, consultant en affaires européennes, enseignant en corps des mines à l'école de commerce ESCP. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur France Info.
8h17 sur France Info, il fait 7 degrés à La Rochelle.
Des fleurs, des t-shirts blancs, quelques larmes, des applaudissements et une foule de plus de 6000 personnes rassemblées là où Mehdi Kessassi a été abattu. Voilà ce que l'on retiendra de l'hommage hier à Marseille. Et après, la vie va-t-elle reprendre son cours comme si rien ne s'était passé? C'est ce que redoutent deux éducatrices des quartiers nord que vous avez rencontrées hier dans cette manifestation, Mathilde Vinceneux. Deux femmes lassées de compter les morts.
Dans la foule, Sabrina a du mal à trouver les mots, secouée par l'émotion. L'assassinat de Mehdi Kessassi, c'est un assassinat de plus, encore un de trop, dit-elle. Éducatrice, elle sait l'emprise des réseaux de trafic de drogue dans les quartiers nord et elle a récemment quitté son poste.
Je travaillais dans la protection de l'enfance et c'était un de mes combats, c'était les enfants qui tombaient dans le narcotrafic. J'ai arrêté parce que c'était plus possible de supporter la mort de chacun de ses enfants. J'espère que Marseille va vraiment lutter contre parce qu'il faut arrêter. Il faut qu'on arrête tout ça. Donc là, c'est un début peut-être à quelque chose de nouveau. Qu'on dise non ensemble, en fait.
Je ne sais pas si ça va changer grand-chose.
Fatima, elle travaille et vit depuis de longues années dans les quartiers nord de Marseille.
Moi, mes enfants ont vu des morts. En jouant au foot, ils ont vu des gens se faire tuer. Moi, j'habite dans un grand quartier, je le vis au quotidien, je suis éducatrice comme Sabrina. Et on voit cette jeunesse perdue. On a l'impression qu'elle n'est pas aidée. On va envoyer les CRS pendant 2-3 jours et après ils s'en vont. Nos enfants, ils sont laissés comme ça. On dit que c'est les parents qui n'accompagnent pas les enfants, mais ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de parents qui vont se battre derrière, chercher leurs enfants sur des points de deal. Là, il faut faire un travail de fond, vraiment. Des aides dans les quartiers pour ces jeunes-là. Plus d'aides pour les centres sociaux aussi, puisqu'on enlève les subventions de plus en plus. Donc, commençons à aider nos jeunes.
Et si dans la foule, il y avait des élus de tous bords pour dire non au narcotrafic, les deux éducatrices ont du mal à croire au sursaut politique.
C'est toujours pareil. Les politiques, ils ont toujours été devant, mais après... C'est toujours pareil.
C'est les politiques qui votent les budgets et à chaque fois, ils nous le réduisent.
Il faut un plan d'action pour la jeunesse des quartiers, martèlent ces deux éducatrices. Ce n'est pas parce que nous vivons dans des quartiers populaires que nos vies ne valent rien, a lancé Amine Kessassi lors de cet hommage à son petit frère.
France Info, reportage à Marseille de notre correspondante Mathilde Vinceneux. L'essentiel de l'actualité tout de suite.
France Info, 7h-10h.
Pourquoi n'y aura-t-il peut-être bientôt plus d'archets en bois pour les violons? C'est le choix de France Info. Et d'abord, l'essentiel de l'actualité en une minute. Il est 8h20, Diane Ferchit est à la une. Les prothèses mammaires en silicone présentent-elles un risque de maladie auto-immune?
C'est en tout cas ce que révèle une étude que France Info a pu consulter. Des prothèses qui libèrent des particules et qui déclenchent dans le corps une réponse immunitaire. Étude qui se veut toutefois rassurante. Selon le docteur qui l'a menée, le fait d'avoir une inflammation ne va pas forcément dire que l'on va être malade. 5 jours d'école plein par semaine, des cours qui ne commencent qu'à 9h et pas de réduction des vacances scolaires. Les propositions de la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant, elle les présente aujourd'hui. Convention composée de 130 citoyens tirés au sort. Ils se réunissent depuis le mois de juin. Fin de la vigilance orange pour 5 départements ce matin. Le Cantal et le Puy-de-Dôme restent encore pour quelques heures en alerte face au risque de neige et de verglas. Paris reprend sa place de leader de la Ligue 1 de foot ce matin après sa victoire sans forcer 3-0 contre le Havre au Parc des Princes. Suite et fin de cette 13e journée. Ce dimanche, 5 rencontres à suivre en clôture. Lille reçoit le Paris FC. Coup d'envoi à 20h45. Match qui sera à suivre sur France Info.
France Info.
8h21, c'est l'heure du choix de France Info.
Il est celui qui fait résonner la musique, celui qui accompagne la virtuosité des violonistes, des violoncellistes. Je parle de l'archet conçu dans un bois bien spécifique, le Pernambouc, venu du nord du Brésil. Sauf que le pays envisage d'interdire sa commercialisation. Bonjour Augustin Ourlier.
Bonjour.
Les musiciens s'inquiètent, les artisans archetiers aussi, parce que voilà, qu'ils pourraient bien signer la mort de leur métier.
Dans cette interprétation du poème « Amitié » composé par Eugène Isaïe, Belot, violoniste à l'Opéra de Paris, utilise un archet en bois de Pernambouc, comme tous les musiciens professionnels de violon, alto, violoncelle et contrebasse.
Le musicien va très tôt chercher à faire l'acquisition d'un archet en Pernambouc. Ça va parfois lui prendre des mois, voire des années, pour trouver l'archet qui correspondra à sa technique, à sa personnalité musicale. Moi, je joue un archet que j'ai depuis mes 15 ans, que je continuerai à jouer aussi longtemps que je le pourrai, parce que j'ai pas trouvé l'équivalent aujourd'hui en termes de qualité.
Si le Pernambouc est interdit au commerce, chaque passage de frontière avec un archet nécessitera d'avoir une autorisation donnée par la CITES, la Convention internationale sur le commerce des espèces menacées d'extinction, avec des délais qui peuvent dépasser les 6 mois.
Certains aéroports ne sont pas du tout habilités à traiter ces questions administratives, donc on pourrait se retrouver avec des archets consignés, confisqués. Je pense que ça signerait tout simplement l'arrêt des tournées.
Certaines directions d'orchestre commencent déjà à suggérer aux musiciens de passer aux archets en carbone fabriqués en Chine. Une hérésie pour Émilie Belot et une grosse perte potentielle pour les artisans archetiers. Arthur Dubroca tient un atelier à Paris depuis plus de 20 ans. Avec la nouvelle protection du Pernambouc, il aurait besoin d'un agrément pour la moindre réparation, fabrication, achat ou vente.
On comprend vite que c'est une entrave au commerce. On ne va pas passer l'année sur des démarches administratives pour un travail qui pourrait prendre quelques heures sur l'établi.
Arthur Dubroca a peur de perdre des clients, notamment les artistes étrangers qui réparent leur archet entre deux concerts à Paris.
Nous, on estime à environ 30% de notre activité avec des clients étrangers. Ce qui veut dire que si jamais jamais on perd cette clientèle, nous on est obligé de fermer l'atelier.
L'artisan dénonce une mesure de protection disproportionnée. Selon ses estimations, la fabrication d'archers pour toute l'Europe nécessite l'abattage d'une quinzaine d'arbres par an.
Sauf que le Pernambouc est un arbre menacé et donc interdire sa commercialisation est assez logique. Voilà ce que dit Maude Lelièvre, la présidente de l'UICN France, Union Nationale pour la Conservation de la Nature.
Le Pernambouc, c'est plus de 80% de l'espèce qui a disparu en trois générations, de façon extrêmement rapide. Donc moi, je peux comprendre le point de vue des acteurs économiques qui craignent pour leur secteur économique. Le problème, c'est qu'on a besoin d'avoir des règles strictes. Sur cette espèce comme sur d'autres, c'est un ensemble de mesures qui est nécessaire. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on veut protéger cette espèce, il faut une application rigoureuse et des incitations à utiliser du bois cultivé et pas des espèces sauvages.
Et si on regarde cette ITES dans son ensemble, quels sont les gros enjeux de cette édition 2025 ?
Alors, on va avoir des débats espèce par espèce. Il y en a peut-être une qui va être intéressante à suivre, qui nous concerne peut-être plus sur le plan français. C'est par exemple le surclassement du requin océanique. On sait que ce sont des espèces qui sont très menacées d'extinction, 70% de l'espèce, avec un déclin qui est notamment dû au commerce illégal des nageoires. S'il n'y a pas des mesures qui sont prises par le commerce, on ne pourra pas avancer sur la protection des requins, les requins et les raies. Ils souffrent, comme d'autres espèces, de ne pas avoir une image très sympathique, mais c'est une espèce absolument essentielle, donc à suivre.
Vous représentez une organisation de protection de la nature. Est-ce que cette CITES 2025 vous donne de l'espoir ?
La CITES, c'est toujours utile, c'est une COP technique, donc c'est pas toujours facile d'arriver à suivre, mais on aborde cette CITES de façon extrêmement positive, notamment sur un point qui concerne la France, qui est la neutralisation des marchés de produits issus du braconnage, comme l'ivoire, les écailles, qui restent toujours des forts marchés de braconnage. Il y a un appel à la fermeture totale des marchés nationaux illégaux. On est concerné en France, on est concerné en Europe. Donc on aborde de façon positive cette CITES.
Maude Lelièvre, présidente de l'UICN, France, Union Nationale Internationale de la Conservation de la Nature. C'était le choix de France Info. Merci à vous, Augustin Ourlier, 8h25.
Le billet science avec le groupe Vive, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France. Groupe Vive, pour une santé accessible à tous.
Et c'est l'heure des sciences. Bonjour Bill François.
Bonjour.
Vu sa taille, on pourrait penser impossible de passer à côté. Et pourtant, Bill, pour la toute première fois, une des plus rares baleines au monde vient d'être observée vivante.
Elle appartient à la famille des baleines à bec. Ce sont des sortes de dauphins géants de couleur gris-marron avec des défenses qui dépassent de leur bouche un peu comme celles d'un sanglier et qui peuvent mesurer plus de 5 mètres. Ça paraît inimaginable, vous n'en avez sans doute jamais vu et c'est normal car elles sont très difficiles à repérer. Mmh. Déjà parce qu'elles n'émettent pas de souffle en surface et en plus parce que ces grands timides se cachent à plus de 3500 mètres de profondeur et peuvent y rester en apnée plus de 4 heures, les meilleurs plongeurs de tous les mammifères marins. Il existe 24 espèces de baleines à bec, mais on ne sait presque rien sur aucune d'entre elles.
Et parmi ces 24 espèces, Bill, il y en a donc qu'on n'a jamais vu.
Et c'était le cas de la baleine à bec à dents de ginkgo. Nommée ainsi car ses dents rappellent les feuilles du bel arbre Ginkgo biloba, qui a les feuilles toutes jaunes dorées en ce moment en automne. Cette espèce ne nous était connue jusqu'à présent qu'à travers quelques ossements et cadavres échoués. Mais c'était sans compter avec la persévérance d'une équipe de chercheurs de l'Oregon et du Mexique qui a passé 5 ans à la traquer sur toutes les mers du globe sans l'avoir jamais vue, juste en suivant la piste de sons susceptibles d'être ceux qu'elle émettait. Et la semaine dernière, la nouvelle est tombée, ils l'ont enfin observée de leurs yeux au large du Mexique.
Sauf que quand même, Bill, comment savoir que c'est bien elle si on ne l'avait jamais vue jusque-là ?
Alors avec une arbalète, les chercheurs ont prélevé un petit morceau de peau et de gras de l'animal et ont pu identifier son ADN. Ça a d'ailleurs été très difficile parce qu'un albatros a tenté de dévorer l'échantillon. C'était moins une. Mais maintenant, on sait donc non seulement à quoi cette baleine ressemble, vivante, mais aussi à quoi ressemble son cri, qui a été enregistré au moment de l'observation. Et en analysant ces sons, on a retracé les parcours de ses congénères à travers le Pacifique. Cette découverte permettra sans doute de mieux protéger ces animaux très menacés par les explosions d'armes sous-marines qui les font s'échouer. Et surtout, elle nous prête à rêver à la part inexplorée de l'océan dont on ne connaît à ce jour que moins de 10% des espèces vivantes. La science souhaite donc à cette étrange baleine Ginkgo de revenir nous voir un peu plus souvent et de nous présenter d'autres géants des mers dont nous ignorons l'existence.
Bon, vous avez parlé du cri de cette baleine, vous ne pouvez pas vous demander de l'imiter. Merci à vous Bill, François, c'était les sciences, la météo tout de suite.
Cerise nous dit pourquoi on peut compter sur Groupama.
Vous cherchez une nouvelle complémentaire santé, Sonia ?
Oui, Cerise. Le tarif de la mienne va augmenter fortement et financièrement, j'ai peur que ça devienne un peu compliqué.
Groupama est là. En nous rejoignant, vous pourriez économiser en moyenne 437 euros sur votre contrat santé. Groupama. Groupama, toujours là pour moi.
Économie moyenne à garantie équivalente ou supérieure déclarée par des nouveaux clients en assurance santé ayant souscrit un contrat entre décembre 2024 et mai 2025. Étude Ipsos juin 2025. Plus d'infos sur groupama.fr.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Il fait pas chaud pour beaucoup d'entre nous, c'est moins vrai si vous êtes dans l'Ouest aujourd'hui.
Très contrasté sur les régions de l'Est, on a encore l'air froid qui résiste, on a encore de fortes gelées ce matin avec moins 8 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy, moins 3 degrés à Lyon. Alors que du côté de la Bretagne, du côté de l'Atlantique, là on sent vraiment le redoux, il fait déjà 13 degrés à Brest et Quimper. Avec ce redoux, on a la pluie qui revient sur la moitié ouest du pays ce matin. Sur la moitié est, on est sous la grisaille. Attention, on a encore de l'air froid, donc on a encore un risque de pluie verglaçante très localement, notamment autour du massif central. Et cet après-midi, la pluie gagne du terrain vers les régions de l'Est, entre les frontières du Nord, la Bourgogne, la Franche-Comté, le centre-Val de Loire, jusqu'au sud-ouest. Toujours de bonnes rafales de vent sur l'arc atlantique et du côté des frontières de l'Est. Pas de pluie pour aujourd'hui, mais ça reste vraiment très gris, avec localement quelques ondées, notamment sur la Corse. Et donc les températures qui vont grimper cet après-midi, on va se rapprocher des valeurs de saison. Ça reste froid quand même sur le quart nord-est, 3 degrés à Mulhouse, 6 degrés à Reims, 7 à Lille, 9 à Paris et Clermont-Ferrand, 11 à Marseille, 13 degrés à Nice et jusqu'à 17 degrés à Biarritz.
Merci Patricia Charbonnet, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 8h30. L'actualité avec vous, Jean-Christophe Martin.
Le plan de Trump sur l'Ukraine au cœur d'une réunion ce matin à Genève. Les émissaires américains, ukrainiens et européens se retrouvent pour discuter de ce projet jugé par l'Ukraine trop favorable aux Russes. Volodymyr Zelensky a déjà dit qu'il n'en voulait pas en l'état et qu'il va faire d'autres propositions aux Américains. Les Européens, de leur côté, se sont organisés dans l'urgence en marge du sommet du G20 en Afrique du Sud pour se greffer sur cette réunion en Suisse. À Johannesburg, pour France Info, Marie Mollet.
Une fois encore, les Européens n'étaient pas dans la boucle de ce plan élaboré en secret par Washington et qui reprend largement les exigences du Kremlin. Alors ce matin, les négociateurs européens vont tenter d'amender ce plan, réécrire ce qui peut l'être face aux négociateurs américains. Le secrétaire d'État Marco Rubio et Steve Witkoff, l'émissaire diplomatique de Donald Trump, très à l'écoute de Moscou. Alors pour aider au dialogue avant la réunion, les leaders européens ont pris toutes les précautions de langage pour ne pas froisser Donald Trump. C'est un bon accord, dans le sens où il propose la paix, a dit Emmanuel Macron, mais c'est une base de travail qui doit se reprendre. Des réserves, exprimées avec des mots sous-pesés et des euphémismes. Hier soir, Emmanuel Macron a évoqué d'un mot ce qui serait pour lui inacceptable, l'imitation de l'armée ukrainienne en particulier. Et puis, autre priorité des Européens à Genève, les points qui les concernent directement, notamment la question des avoirs russes gelés ou des soldats de l'OTAN. Là non plus, ils n'avaient pas été mis au courant.
Marie Mollet à Johannesburg pour France Info. C'est la fin de 5 mois de travail collectif. La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant se termine aujourd'hui. Les 130 citoyens tirés au sort votent à la mi-journée sur le rapport final qui sera ensuite remis au chef de l'État et au Premier ministre. Ces Français devaient répondre à la question comment mieux structurer les temps de la vie quotidienne des enfants pour qu'ils soient plus favorables à leurs apprentissages, à leur développement et à leur santé. À Marseille, la marche blanche en hommage à Mehdi Kessassi, ce jeune homme de 20 ans assassiné le 13 novembre par un commando à moto a rassemblé plus de 6000 personnes. Hier, son grand frère, Amine, affirmant que plus on est nombreux, moins ce sera possible de nous faire taire. Amine Kessassi, lui-même militant écologiste très engagé contre le narcotrafic, il appelait hier à entrer en résistance sans céder à la peur. Et des dizaines de milliers de personnes ont manifesté à travers toute la France et bravé le froid pour exprimer leur colère face à la persistance des violences contre les femmes. Des manifestations hier pour réclamer un plus grand effort public, notamment budgétaire, et en appelant l'État à révolutionner la lutte contre ce fléau. Plus de 80 députés de tous bords réclament l'interdiction du géant chinois du commerce en ligne Shein sur le territoire français. Un texte publié dans la Tribune dimanche, interdiction demandée pour protéger les travailleurs, la santé publique et la planète après l'installation de la marque chinoise au BHV à Paris. Que retenir de la COP30, le sommet des Nations Unies qui s'est terminé hier soir à Belém au Brésil? À la grande déception des Européens, rien sur la sortie des énergies fossiles, mais 200 pays qui se sont mis d'accord, notamment pour obtenir le triplement de l'aide à l'adaptation à l'horizon 2030 pour les pays en développement. Le rugby, après deux premiers matchs décevants, le 15 de France finit l'année et sa tournée d'automne sur une bonne note. Une victoire très large, 48-33 face à l'Australie au Stade de France. L'arrière et buteur des Bleus, Thomas Ramos.
On est forcément content de cette victoire. Après, je ne sais pas si à la mi-temps on était très serein à 19-19, mais le match a tourné de notre côté ce soir, donc tant mieux. On a eu une meilleure discipline en deuxième mi-temps qui nous a permis d'empêcher cette équipe australienne de venir plus souvent dans nos 22 mètres. Donc voilà, c'est bien terminé avec quand même un score où on met presque 50 points à cette équipe ce soir.
Prochain rendez-vous pour les Bleus, les Six Nations, le jeudi 5 février avec France-Irlande. 8h34, tout de suite le 8h30 France Info, l'invité, la ministre déléguée aux armées, Alice Ruffo, avec Mathilde Sirot et Adrien Beck. Bonjour Alice Ruffo.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin sur France Info, ministre déléguée aux armées. Depuis donc assez peu de temps, on va évoquer avec vous un certain nombre de sujets. Ils sont nombreux. Il y a la menace russe, les conséquences en France de ce qui se passe en ce moment, l'enlisement aussi du budget au Parlement, le contexte international, évidemment. C'est notre premier sujet avec cet ultimatum pour l'Ukraine, accepter ou non le plan de paix de Donald Trump d'ici jeudi prochain, d'ici Thanksgiving. On va parler aussi du rôle des Européens qui semblent se préciser aujourd'hui. D'abord, à vos yeux, ce plan de paix, c'est une capitulation, comme le disent certains, ou il y a des choses à garder?
Alors, premièrement, la situation, vous l'avez décrite, elle est quand même assez grave. C'est une situation qui est lourde dans la période actuelle sur le plan international pour nous, pour l'Europe, pour l'Ukraine, etc. Deuxièmement, il y a ce plan qui a été posé sur la table par les Américains, dont le président des États-Unis d'Amérique dit lui-même qu'il est amendable, qu'on peut travailler, etc. Et troisièmement, il y a la position des Européens. Et la position des Européens, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scénario dans lequel la dignité et la liberté de l'Ukraine sont négociables. Le président Zelensky s'est exprimé dans un discours le 21 novembre dans lequel il a martelé la question de la dignité et de la liberté, le jour de la dignité et de la liberté. La dignité et de la liberté de l'Ukraine, c'est sa souveraineté, elle n'est pas négociable.
Concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a l'impression que les Européens, encore une fois, ont été mis devant le fait accompli avec ce plan complètement rédigé par les Américains, avec un doute d'ailleurs sur l'influence du Kremlin sur la rédaction même de ce texte. Qu'est-ce qu'on peut, nous, obtenir? Quelles sont les lignes rouges des Européens? Vous parlez de liberté, dignité, ça veut dire quoi sur le terrain, en termes de forces armées, en termes aussi de concessions territoriales?
En fait, il ne peut pas vraiment y avoir de paix durable sans les Européens, par définition. Et donc, je vois de la logique de ligne rouge, et c'est très clair que la souveraineté de l'Ukraine n'est pas négociable, je viens de le dire. Mais surtout, pour vous dire très concrètement ce dont il s'agit, c'est qu'au fond, dans ce plan, dans les éléments de ce plan, il y a des choses qui stipulent pour les autres, c'est-à-dire pour l'Ukraine,
pour l'OTAN,
et pour l'OTAN et pour l'Europe. Et ça, il n'y a pas de configuration dans laquelle on ne discute pas avec les acteurs concernés de ce qu'ils doivent faire ou pas faire. Donc c'est ça le principal enjeu.
Alors justement, il y a des délégations européennes qui se rendent à Genève aujourd'hui en Suisse, une délégation allemande, britannique, une délégation aussi française, qui va aller négocier au nom de la France et quelles vont être nos demandes concrètes?
Alors là, il y a déjà une délégation française qui est arrivée à Genève, qui est menée par le conseiller diplomatique du président de la République. Moi, j'y vais après, là, en sortant de ce plateau. Concrètement, d'abord, ce qu'on voulait, et on l'a déjà obtenu, c'est qu'on négocie avec les Américains, avec les
Ukrainiens. Là-dessus, Donald Trump vous a donné le point cette nuit en disant on peut négocier.
Mais en fait, pour être très précise, les Américains disent qu'ils veulent la paix. Et ça, c'est une bonne chose. Nous aussi, depuis le début. La situation est grave, mais elle n'est pas complètement nouvelle. Ça fait depuis des mois que les Américains disent quoi? Ils disent qu'ils veulent la paix par la force. Les Européens veulent la paix. Les Ukrainiens veulent la paix. C'est la Russie qui veut la guerre. Personne d'autre autour d'une table éventuelle. Donc, au fond, si on veut la paix par la force, eh ben, il faut négocier aussi cet élément de force. C'est là où j'imagine qu'on veut y revenir. L'Europe a pris ses responsabilités. On n'est pas exactement dans la situation d'il y a plusieurs mois. On a mis sur la table la coalition des volontaires qui se réunira d'ailleurs mardi et qui permet d'avoir cet élément
c'est
de force.
C'est ça, pour vous, le point essentiel, le point, au fond, pour les Européens qui manquent dans ce plan? C'est la question du déploiement d'une forme de force en Ukraine qui, là, ne serait pas prévue par ce plan, ce serait en Pologne.
Un des points essentiels, il y a des éléments qui doivent être précisés. Honnêtement, je vais aller à Genève, la négociation est en cours, il faut dans ces cas-là... Encore une fois, on a déjà vécu des situations comme cet été où il y avait eu la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump.
Ça se répète un peu d'ailleurs.
C'est-à-dire qu'en fait, on travaille beaucoup et qu'on met de plus en plus d'éléments sur la table qui nous permettent aussi d'avancer. Concrètement, il y a une histoire. On a déjà vécu des situations. Alors, c'était Budapest, le mémorandum de Budapest,
94,
puis Minsk, voilà. Où, au fond, on a cru la Russie sur parole en disant... elle a dit, je promets, j'envahirai plus jamais l'Ukraine.
Rappelons d'un mot, mémorandum de Budapest, où on estime que, en gros, l'Ukraine doit abandonner une partie de ses armes parce qu'elle sera protégée en cas d'attaque. Et ça n'est pas arrivé.
Voilà. Donc, en fait, là, les éléments de limitation de l'armée ukrainienne, qui sont un élément de limitation de souveraineté, c'est pas acceptable. Parce qu'en fait, l'Ukraine doit pouvoir se défendre. On va quand même pas croire la Russie sur parole. La Russie veut la guerre et la fête à de très nombreuses reprises, au fond, au cours des dernières
années.
Donc
ça, c'est le deuxième point que vous nous dites qui est bloquant.
Bloquant, j'ai pas dit que c'était bloquant, j'ai dit que c'était sur la table en discussion. Je rappelle que dans la coalition des volontaires, qui a été lancée justement pour travailler sur cet aspect des garanties de sécurité, pourquoi ? Parce que sinon, il n'y aura pas de paix robuste, durable, etc. Les Américains sont là, discutent avec nous. Steve Witkoff, vous savez, l'envoyé des États-Unis, était à la dernière réunion de la coalition des volontaires. Donc, je ne dis pas que c'est un point de blocage, c'est un point de discussion.
Est-ce qu'il y a un risque, si jamais l'Ukraine venait à refuser ce plan, qui, pour bien des points, vous l'avez évoqué, lui est extrêmement défavorable, est-ce qu'il y a un risque que les Américains se désengagent complètement et cessent tout soutien militaire envers Kiev ?
Écoutez, je pense que c'est pas dans l'intérêt, en fait, de la sécurité de l'espace euro-atlantique, comme on dit, c'est-à-dire pas dans l'intérêt des Européens ni des Américains de donner une victoire stratégique à la Russie. Fondamentalement, c'est pas dans notre intérêt. Pourquoi aussi ? Parce que si cette paix n'est pas durable, si elle n'est pas robuste, mais pour le coup, il y a un risque. Il y a un risque que la Russie continue et qu'on aille vers une logique de confrontation ou de test. Il y a un risque. Donc, c'est, encore une fois, on est des puissances de paix. On est des alliés. Il y a une alliance atlantique qui est faite pour la paix. Et d'ailleurs, les Américains veulent la paix. Il faut dissuader. Il faut être fort.
On sait que Donald Trump et Emmanuel Macron ont échangé ces dernières heures. Vous étiez, on le rappelle, conseillère de très proche d'Emmanuel Macron à la cellule diplomatique. Vous avez assisté de nombreuses fois à des échanges entre le président français et le président américain. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ?
Alors là, j'étais pas au dernier échange, mais ce que je sais, c'est pour l'avoir vécu, le premier mandat de Donald Trump et en direct. Enfin, c'est que il y a vraiment une relation de travail et de confiance entre eux. Voilà, le président est capable d'être extrêmement direct, tout en étant très respectueux. Et encore une fois, c'est des relations interpersonnelles qui appuient les relations d'État à État. Et je pense que là. Moi, j'ai vu le président de la République commencer à travailler. Je l'ai accompagné dans une partie de son déplacement dans l'océan Indien. Il y a beaucoup, face à beaucoup d'agitation, et on voit, il y a beaucoup de calme, beaucoup de travail, beaucoup de sérieux, beaucoup de coordination. Parce que ce dont on est en train de parler, c'est quand même de la sécurité de l'Europe.
Mais il y a aussi
donc il y a de la gravité et de la concentration.
Il y a aussi le sentiment que quand les Européens parlent à Donald Trump, ils arrivent à le convaincre, dont Emmanuel Macron. Que quelques temps après, il parle à Vladimir Poutine et que la conviction se fait dans l'autre sens et qu'il faut tout recommencer depuis le début à chaque fois.
Je comprends ce que vous dites. Simplement, on ne recommence pas tout depuis le début.
Si on remet des étapes qui sont franchies quand même.
Si on remet en perspective quand même, sur la paix, l'Ukraine a accepté un cessez-le-feu. Je veux dire, le président de la République était en Ukraine avec ses homologues européens il y a quelques mois. Et vous vous souvenez, on était là pour parler de la coalition des volontaires, qui était précisément une coalition pour la paix. Je n'ai pas encore entendu la Russie expliquer comment elle allait faire la paix.
Un mot encore sur les négociations du jour à Genève. Je rappelle qu'il y a cette deadline, cet ultimatum de Donald Trump, donc le 27 au 27 novembre, donc jour de Thanksgiving. Est-ce que c'est envisageable d'avoir un plan sous 5 jours ? Ou est-ce que vous dites, là, on commence des négociations qui font partie en fait, d'un cycle qu'on a entamé il y a déjà des mois et qui vont se poursuivre encore ?
Alors là, on entre dans une logique de négociation diplomatique où il y a des entrées en négociation qui sont parfois très importantes, très élevées, et puis ensuite on se retrouve et on discute. Donc je ne peux pas préjuger du résultat des négociations avant qu'elles commencent.
À vous dire, en 5 jours, ce n'est pas simple quand on fait des négociations
diplomatiques. Ah non, ce n'est pas, c'est pas simple. En même temps, pour être honnête, le plus vite on obtiendra la paix par la force, que veulent les Américains d'ailleurs, le mieux ce sera. Mais il faut que cette, mais si on obtient pas cet élément de robustesse et de durabilité de la paix qui passe par le respect de l'Ukraine, eh ben, ça ne tiendra pas.
L'Europe, on le sait, est engagée dans un processus de réarmement. Concernant la France et l'Allemagne, il y a ce projet d'avion du futur, le SCAF, pour système de combat aérien futur. Alors, ça fait longtemps qu'il y a des discussions, c'est très compliqué puisque on parle de mastodontes, hein, Dassault, Airbus, extrêmement concurrents avec des positions pas forcément compatibles. Alors Emmanuel Macron, lui, il y croit encore, il pense que c'est toujours possible, mais est-ce que c'est pas un aveu d'échec? On a l'impression que ça n'avance pas.
Alors ça avance. Ça avance. Moi j'ai fait plusieurs déplacements, dont un à Berlin pour essayer d'en parler. La ministre des Armées Catherine Vautrin a rencontré son homologue. Le président de la République était allé à Berlin. Bon.
Donc c'est au niveau des industriels que ça bloque.
Ah bah de toute façon, il y a eu des débats publics qui ont été
faits. C'est chef difficile. De file de ce projet.
Je vais pas vous dire là maintenant oui c'est facile, c'est pas vrai. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est la nécessité. Le SCAF, c'est pas simplement un avion, c'est un système. C'est-à-dire vous avez aujourd'hui une compétition internationale qui est très forte avec des acteurs qui sont à la fois parfois nos rivaux et nos alliés qui vont très vite, et oui, on a besoin d'un avion du futur européen. C'est-à-dire qu'on est dans une situation qui est, vous voyez ce qui se passe aux frontières de l'Europe, on réarme tous. Il faut absolument qu'on arrive à avoir des moyens qui sont extrêmement compétitifs à l'échelle internationale. Et de ce point de vue-là, la coopération franco-allemande comme la coopération européenne, c'est un atout formidable. Il faut absolument qu'on le joue pour avoir ce fameux avion de 6e génération qu'on veut. Nous, après, on a une position particulière en Europe qui est que On est une puissance nucléaire, on est une puissance dotée, on a des nécessités qui font qu'il faut que le programme se passe bien, respecte les délais, parce qu'il faut défendre l'Europe, et la France joue un rôle majeur là-dessus, et c'est là que les discussions doivent se prolonger. Il y a une décision qui sera prise en décembre, mais ce que je peux vous dire, c'est que les négociations sont
rapides. Une décision sur quoi ?
Sur l'avenir du SCAF, comment on continue à travailler ensemble.
Juste un tout petit mot quand même, parce qu'on parle du SCAF, mais il y a l'avion qu'on a actuellement, là, c'est le Rafale, et on parlait de l'Ukraine. Sans Rafale, c'est la promesse d'ici 2035 pour l'Ukraine. Alors, ce sont des intentions, on n'est pas encore dans une commande ferme. Comment l'Ukraine paye ? C'est nous qui leur payons ou comment ça se passe ? Parce que certains peuvent s'inquiéter, on a vu ces jours-ci, de qui va payer.
Alors, vous avez raison, c'est la question des financements qui est absolument prioritaire, mais il y a des financements européens qui sont possibles. La question, c'est comment on les emploie. Ce qui s'est passé avec l'Ukraine la semaine dernière, c'est que c'est très important. C'est quoi ? C'est on va construire ensemble votre armée future, avec notre base industrielle et technologique européenne, à laquelle l'Ukraine aspire. Elle a une aspiration européenne.
Vous pensez que tous les alliés de la France laisseront utiliser des fonds européens pour financer des avions français pour l'Ukraine ?
Mais je pense qu'il faut absolument qu'à un moment donné, on se mette autour d'une table, on mobilise des financements européens. Et quand on dit qu'on veut intégrer l'Ukraine, au fond, que l'Ukraine est la première de nos garanties de sécurité, ce qui est vrai, c'est une armée qui se bat tous les jours, qui nous protège dans la période actuelle, et ben, il faut quand même qu'elle puisse s'appuyer sur les moyens d'une industrie européenne qui est forte, qui est solide. L'industrie française de défense est extrêmement forte. Et donc il faut permettre de lui donner ses moyens. Ce qui ne sont pas simplement les rafales, il y a aussi les moyens de protection aérienne. Vous avez vu tout ce qui se passe dans le ciel ukrainien. Donc c'est très important qu'on commence ce chemin irréversible vers nous.
Alice Ruffo, vous restez avec nous. On se retrouve juste après l'essentiel de l'actualité. 8h46, Diane Ferchit.
La Convention citoyenne sur les temps de l'enfant à l'école présente ses propositions, 20 points au total, pour mieux adapter le rythme scolaire aux besoins des élèves, avec par exemple un début des cours repoussé à 9h pour les collégiens et les lycéens, ou encore une semaine de 5 jours pleins dès le primaire, et ce afin d'alléger les journées. 50 000 manifestants à Paris, plus de 17 000 en région contre la persistance des violences faites aux femmes. Hier, les cortèges ont réclamé un plus grand effort public, notamment budgétaire, contre ce fléau. Et dans ce contexte, le compagnon d'une femme tuée jeudi à son domicile de Sedan dans les Ardennes est mis en examen pour meurtre sur conjoint. Il a été placé en détention provisoire. Les négociateurs ukrainiens, américains et européens se réunissent en Suisse ce dimanche au sujet du plan de paix en Ukraine, plan présenté par les États-Unis. C'est une base de travail qui doit se reprendre, estime Emmanuel Macron. Mais toute initiative qui va vers la paix est bonne, souligne le chef de l'État. Il n'y a plus ce matin que deux départements du centre de la France, toujours en vigilance orange, neige et verglas, le Cantal et le Puy-de-Dôme. Vigilance qui va se maintenir jusqu'à 10h selon Météo France.
France Info.
Le 8-30 France Info, Adrien Beck, Mathilde Sirot.
De retour dans le 8-30 de France Info avec notre invitée ce matin, Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées. Alors évidemment, on voulait revenir avec vous sur cette déclaration qui a tant fait parler cette semaine, celle du chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, qui a donc parlé d'accepter de perdre nos enfants par rapport à cette menace russe et aux conséquences très concrètes sur le sol européen, le sol français. D'un mot, le président l'a soutenu, il s'en est expliqué hier soir lui-même à la télévision. Est-ce que quand même il n'est pas allé trop loin sur la forme ?
Alors moi j'ai relu son discours avant de venir, pour relire à tête reposée. Honnêtement, il n'y a rien qui m'a surpris dans son discours, je vous le dis très sincèrement.
Y compris ce passage, voilà, très précis sur nos enfants.
Bah, en fait, c'est sûr que si vous sortez le passage, je crois qu'il a reconnu d'ailleurs lui-même hier.
Que ça avait inquiété aussi.
Ah, de toute évidence. Et simplement, c'est sûr que si vous sortez ce passage et que vous ne parlez que de ça et que vous ne lisez pas la totalité de son propos, oui, je peux comprendre. Mais maintenant, moi, ce qui m'interpelle quand même un peu... Je vais être très sincère. Vous savez, j'ai lu les déclarations, par exemple, de Jean-Marie Bockel, qui, lui, a perdu son enfant au Mali. Et moi, j'ai le monde combattant avec la ministre dans mon portefeuille, donc je suis au contact des familles, des jeunes qui vont au combat pour nous. Et je me suis demandé ce que ces familles-là, qui parfois perdent des leurs... là, c'est récemment le cas, on a rendu hommage à une jeune femme qui est tombée au Liban, à un jeune homme qui est tombé en Guyane. Je me suis demandé ce qu'elles pensaient quand elles entendaient ces polémiques. Ce sont des gens qui... Il n'y a pas de paix sans défenseurs, et ces gens-là, ces jeunes s'engagent militairement et ils nous défendent. Donc, je voudrais juste rappeler ça, parce que dans toute la polémique qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'on les a un peu laissés de côté et c'est pas bien.
Et à ce propos, vous parlez justement de ce monde combattant. On voulait voir avec vous ce que prépare très concrètement le président de la République. Il y a bien sûr ce service national volontaire qui est donc un des projets du gouvernement. Et ce matin, la Tribune dimanche annonce que le président Emmanuel Macron s'exprimera cette semaine, peut-être jeudi, pour détailler cette nouvelle formule et ce nouveau cadre pour servir au sein de nos armées. Et le journal précise les modalités. Alors, service militaire basé sur le volontariat dès 2026, accessible à partir de 18 ans, payé entre 900 et 1000 euros par mois pour une durée de 10 mois. Est-ce que vous confirmez ce matin, Alice Ruffo, toutes ces pistes qui ont été dévoilées dans la presse ?
Alors, je confirme que depuis le 13 juillet dernier, quand le président s'est exprimé à l'hôtel de Brienne pour son discours habituel, traditionnel, il a demandé au ministère des Armées de travailler sur un cadre d'engagement renouvelé. Et donc oui, je confirme qu'il y a des travaux en ce sens. Vous avez parlé de volontariat. Je pense que c'est effectivement un mot-clé. Et je veux peut-être juste un peu donner des éléments d'explication et de contexte. Vous le savez, dans plusieurs pays européens, en ce moment, des réflexions là-dessus. La semaine dernière, j'ai reçu mon homologue suédois, qui est un modèle qui est en train d'être développé dans pas mal de pays européens. Bon, tout le monde y travaille, donc nous aussi on y travaille.
C'est cette semaine que ça va être annoncé ?
Ça, je ne sais pas.
Alice Ruffo, 50 000...
On y travaille, oui.
50 000 personnes, 50 000 volontaires d'ici 2035, c'est un horizon qui est réaliste.
Alors, vous savez, on a déjà, dans la loi de programmation militaire telle qu'elle a été votée, parlé de l'augmentation de la réserve opérationnelle. Donc ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on constate quand même ? On constate, qu'il y a quand même une vraie volonté d'engagement. Voilà, elle existe, on peut avoir des débats, des polémiques, etc., mais il y a une volonté d'engagement. Deux, il y a différentes formes d'engagement. Il y a l'engagement militaire, qui implique quand même des risques et des sacrifices très importants. Il y a d'autres formes d'engagement aussi qui peuvent être utiles, et d'autres formes de compétences qui peuvent être utiles. Et la deuxième chose qu'on observe, c'est que face à la conflictualité qui est la nôtre, il y a beaucoup de compétences qui sont requises dans beaucoup de cadres, et qu'on doit absolument les utiliser. Une de nos très grandes forces, en Europe et en France en particulier, c'est qu'on a une jeunesse qui a des compétences technologiques, qui a des compétences qui doivent absolument pouvoir trouver un cadre pour notre défense
commune. Mais très concrètement, pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, j'ai un enfant de 18 ans » ou même des jeunes qui nous écoutent, Ça consiste en quoi ? C'est 10 mois où on va servir concrètement dans l'armée dans le but de l'intégrer, ou 10 mois dans le but de faire partie de la réserve, ou 10 mois juste une expérience comme ça pour voir à quoi ça ressemble ?
Vous venez très bien de résumer les choses, il y a différents cadres. Après, il est clair, et moi je travaille au ministère des Armées, que le métier des armes est un métier particulier et qu'il est possible de s'y engager, mais sur une base évidemment volontaire. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont utiles à la défense du pays, qui peuvent être sollicités.
Il faut que ce soit rémunéré un peu quand même, on disait 900, 1000 euros par mois.
Ah bah écoutez, je vous dis juste qu'on y travaille, mais ça sera vraiment au président de le faire. Non, ce qui compte, c'est de faire confiance à la jeunesse et de lui donner les moyens d'avancer. Donc oui, y compris de cette manière-là.
Un tout dernier mot pour finir. Est-ce que vous êtes inquiète, Alice Ruffo, sur le fait que les crédits militaires soient bien portés à la hausse ? On sait qu'il y a 6,7 milliards d'euros qui sont prévus dans ce budget qui s'enlise au Parlement. Est-ce que, même si on passe par une loi spéciale, c'est ce que le gouvernement a esquissé cette semaine, ces crédits supplémentaires pour l'armée sont garantis ?
Non. Il faut qu'on ait un budget et il faut que le Parlement puisse l'adopter, parce que on peut pas juste se contenter de reconduire les crédits de l'année dernière. C'est un problème. Je suis pas inquiète, je suis déterminée. Il faut qu'on ait cette surmarche, ces 6,7 milliards, parce qu'il s'agit de notre sécurité. Et là, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut augmenter les moyens de la défense.
Et on entend votre appel, effectivement, à ce qu'il y ait un budget. Merci beaucoup, Alice Ruffo, ministre déléguée aux armées, d'avoir été l'invitée du 8:30 France Info. Merci, Mathilde Sirot, et à tout à l'heure pour les informer. Restez sur France Info. Ces destins qui font l'info à présent, et pendant tout ce mois de novembre, nous avons rendez-vous avec Giorgia Meloni, la présidente du Conseil italien. On connaît son aversion pour l'immigration, ses penchants ultra-conservateurs, ce qui marque chez elle aussi dans le style. C'est une fougue, une posture, alors quelle est la patte Meloni ? Appelez-moi simplement Giorgia, quatrième épisode de notre série, signé Agathe Mahué.
C'est une séquence purement Meloni. En mai 2024, la première ministre se rend près de Naples et rencontre le président démocrate de cette région, Campanie, qui l'avait insulté, traité de stronza, quelques mois plus tôt lors d'une conversation privée, mais divulguée. Voilà donc Giorgia Meloni qui s'approche de lui, Vincenzo De Luca.
Presidente De Luca.
Et droit dans les yeux.
La stronza della Meloni. Come sta?
C'est moi, cette connasse de Meloni. Comment allez-vous? Tout en lui serrant la main. De Luca ne réagit pas et lui souhaite simplement la bienvenue dans la région. Un point pour la présidente du Conseil italien qui revendique ce franc-parler, cette langue jamais dans la poche et cet accent romain. Parfois même ce dialecte de Rome dont elle use parce qu'il la rend authentique et sincère auprès de son électorat. Été 2022, juste avant d'arriver au pouvoir, elle perd un peu sa voix en meeting. Boit une gorgée d'eau et s'excuse. Je vous jure que j'essaie d'être plus calme. Mais bon, les gars, je suis de la Garbatella aussi. Que voulez-vous ? Faut que ça sorte. C'est ça, la Garbatella, ce quartier très populaire que dévale sur sa Vespa Nanni Moretti dans son film Journal Intime, sur une musique de Leonard Cohen.
Il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella.
Bon, Moretti et Meloni, c'est vrai, ne sont pas du même bord. Et ce quartier périphérique de Rome est surtout un bastion de la gauche où emménage Giorgia, toute petite, après le départ de son père et l'incendie qu'elle provoque en laissant brûler une bougie dans l'appartement cossu du centre-ville qu'il faut quitter.
Le mie radici popolari, no? M'hanno chiamato Pesciarola, Fruttivendola, Borgatara.
Cette jeunesse à la Garbatella lui permet de se revendiquer banlieusarde. Des origines qu'elle ne manque jamais de rappeler.
Sono e sarò sempre fiera di essere una persona del popolo.
Je suis et je serai toujours fière d'être une personne du peuple. Je serai toujours simplement l'une des vôtres. Elle incite d'ailleurs ses électeurs à l'appeler simplement par son prénom.
Non Presidente, non Meloni, Giorgia.
Giorgia Meloni n'a que le bac, son seul diplôme. Elle raconte volontiers qu'elle connaît les petits boulots. Serveuse au Piper Club de Rome, célèbre scène de rock dans les années 70, devenue discothèque quand Meloni avait 20 ans.
Must be the reason why I'm king of my castle. Must be the reason why I'm free in my trap.
La présidente du Conseil italien, désormais à 48 ans, un débit mitraillette, tempérament déterminé. Elle l'a dit, il faut l'être pour réussir dans un monde d'hommes. 1m60, Giorgia Meloni n'est pas grande, mais on ne voit qu'elle dans les sommets internationaux. Ses grimaces, ses froncements de sourcils notamment, font le tour du monde. L'auteur Emmanuel Carrère, qui couvre le G7 à l'été 2025, dit d'elle qu'elle est la moins poker face de tous. Quand quelque chose l'amuse, elle pouffe de rire. Quand quelque chose l'ennuie, elle lève les yeux au ciel et soupire bruyamment. Et l'écrivain ajoute
« Je sais que Mélanie est considérée comme d'extrême droite et qu'il ne faut pas dire du bien d'elle. Disons seulement que cette petite femme blonde détonnait au G7 par une sorte de rudesse enjouée et un dress code sans concession à la grisaille. Au milieu des tailleurs stricts, sa robe bleu ciel, très légère, avait presque l'air d'une robe de plage. »
Dirait-on cela d'un homme ?
She's a beautiful young woman.
Ça ne vous dérange pas que je parle de vous comme d'une belle jeune femme, n'est-ce pas ? S'assure aussi Trump.
You don't mind being called beautiful, right?
Parce que vous l'êtes.
You are.
Mélanie, surtout, est habile et fine politiquement. Toujours populaire en Italie après 3 ans à la tête de son gouvernement ultra-conservateur. Presque un record de stabilité.
Il nostro governo entra nella lista dei primi 5 governi più duraturi della storia della Repubblica Italiana.
Son objectif, redonner à l'Italie toute sa place sur la carte du monde.
Giorgia Meloni par Agathe Mahuet, 4e épisode de notre série consacrée à la présidente du Conseil italien que vous pouvez retrouver bien sûr sur l'appli Radio France. La météo tout de suite.
J'ai regardé ce film, c'était une surfeuse. Il y a un requin blanc qui lui avait mangé la jambe. La mer, elle était pleine de sang. Le soir, j'oublie rien sans que ça revient.
Moi, ça passe jamais. Quand je regarde un truc qui fait peur, ça passe jamais.
Les images ont toujours un impact sur nos enfants. Découvrez comment les aider à ne pas subir sur arcom.fr.
L'Arcom est le régulateur de la communication audiovisuelle et numérique.
France Info Météo, avec le CIC, entreprise à mission. S'engager à ne pas commercialiser les données de ses clients, c'est ça construire pour que le monde bouge.
On a eu froid, Patricia Charbonnier, on va avoir moins froid.
Oui, on va retrouver progressivement des températures de saison par l'ouest du pays. Ce matin, c'est encore très froid sur les régions de l'Est, jusqu'à moins 8 degrés à Strasbourg, moins 6 degrés à Nancy, mais il fait déjà 13 degrés à Brest et Quimper. Et avec le Redoux, on a la pluie qui revient sur la moitié ouest du pays, qui va gagner une bonne partie du pays dans la